Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 405, nous sommes en mai 2021 et nous avons un programme croustillant à vous proposer aujourd'hui. Bien sûr, on va couvrir tout Google I.O., vous dire ce qui a été annoncé d'important, ce qu'on en pense. On a également des sujets extrêmement intéressants mais un peu plus petits comme l'application Poparazzi, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais dont vous entendrez parler d'ici quelques jours, quelques semaines, et pour lesquels vous pourrez dire « Ah bah oui, bien sûr, je connais, je l'ai déjà entendu dans le Rendez-vous Tech, voyons ». Il y aura aussi des choses inquiétantes qui se passent du côté de Citizen App, un truc que vous ne connaissez peut-être pas également, mais qui est quand même, qui nécessite notre attention, et plein d'autres choses comme le Link Rot et le Content Drift. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça va devenir de plus en plus problématique au fur et à mesure que le web, j'allais dire que nous vieillissons, mais je vais dire quand même que le web vieillit. Et pour m'aider à parler de tout ça, j'ai l'immense plaisir de recevoir Benoît Curdi, représentant officiel de Niptech, et on peut le dire, du gouvernement suisse. Comment vas-tu, Benoît?
Salut Patrick, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, en tout cas de Niptech, je ne sais pas si le gouvernement sûrement qu'ils se sentent honorés de ma participation au Rendez-vous Tech, en tout cas ils devraient. Et je me réjouis de passer ce moment avec toi. Je ne sais pas quand c'était la dernière fois, mais c'est toujours un bon moment. Donc voilà, ça va être sympa.
Tu sais quand c'était, Benoît? C'était il y a trop longtemps. C'est ça que c'était. Il y a trop longtemps. On va se lancer dans l'enregistrement, mais avant ça, je voudrais remercier tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech, tous ceux qui font que vous pouvez avoir cette émission dans les oreilles aujourd'hui. C'est grâce à eux et j'espère que vous vous joindrez à moi dans ces remerciements. On a Mathieu Letombe, Fabien Zutter, Baranger, Vender... Oulala, alors là, j'aurais dû préparer avant. Hein. Honte à moi, Patrick. Vendekerhov, j'espère que je l'ai bien dit, Alex, Floflo26 et deux producteurs fameux et respectés de l'émission Rémi X et Léthargique Panda. Je suis toujours en admiration devant l'inventivité des gens qui soutiennent l'émission, que ce soit les producteurs comme Rémi X et Léthargique Panda ou les autres. Quand je dis l'inventivité, du coup, si c'est leur vrai nom, on peut imaginer que ce sont leurs parents ou leurs aïeux qui ont eu un trait de génie en se disant « Eh bien, écoutez, moi, je vais m'appeler Béja ». Voilà, ça, c'est une excellente... Est-ce que c'est nous qui choisissons ou est-ce que c'est les gens qui décident comment ils vont nous appeler? Peut-être un sujet de discussion un autre jour. Mais donc aujourd'hui... Ouais,
Léthargique Panda qui a fait une grande carrière à la Silicon Valley de développeur par ailleurs. Donc tu as vraiment le gratin, on le sait, mais tu as vraiment le gratin du gratin dans tes followers et dans les gens qui te soutiennent.
Merci beaucoup. Tu sais, je le disais l'épisode dernier, mais je peux le redire encore aujourd'hui parce que j'en suis très fier. Parmi le gratin de tous ces gens qui participent à la communauté de l'émission, il y a le créateur des Dogecoin qui me suit sur Twitter et avec qui je parle de temps en temps. Donc vraiment, je pense qu'il est établi que les gens qui suivent et écoutent le Rendez-vous Tech ou qui suivent notre Patrick sont des gens d'une immense qualité. C'est vraiment la hôte du monde de la tech, y compris Benoît Curdi, bien sûr.
Oh, voilà.
Donc, on va parler de Google I.O. Et bon, ça fait quand même très longtemps, mais avant de travailler pour le bien public en Suisse, tu travaillais chez Google. Quand on s'est rencontrés il y a de très nombreuses années, tu étais chez Google. Évidemment, à cette époque, c'était la grande époque. Maintenant, depuis que tu es parti, les choses vont moins bien, on le comprend. Mais tu es encore... J'imagine que tu as une affection particulière pour la boîte ou... Ou non, tu la regardes de loin maintenant que tu n'y travailles plus?
Ouais, c'est vrai que alors ça fait une dizaine d'années hein, que je travaille plus chez Google. Donc, je crois que j'ai arrêté en 2012. Donc, on y arrive gentiment. Et c'était le moment, effectivement, où il transitionnait de cet esprit où chacun pouvait un petit peu faire ce qu'il voulait à un moment où il fallait quand même serrer un peu les vis parce que voilà, ils étaient trop, simplement. Donc, et maintenant, je pense que c'est devenu une société, bah, ça doit être corporate comme n'importe qui, quoi. Au bout d'un moment, voilà, c'est simplement la réalité de la taille et des années. C'est vrai que j'ai beaucoup appris et donc il y a beaucoup de choses qui me restent en termes de culture, de comment on fait les choses, de comment on challenge un petit peu les assumptions, comme on dit, tu vois, ça me revient en anglais
attentes.
Maintenant. Les attentes, etc. Donc il y a une culture vraiment que j'ai gardée avec de très bonnes choses. Après, voilà, je ne suis pas un fanboy plus que ça de la société. Je pense qu'il y a des trucs super, il y a des trucs un peu moins intéressants. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur ce dont on va parler, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Donc je me réjouis de ça et je pense qu'on est en train de voir les fruits d'une transition qu'ils font depuis des années, mais qui s'exprime. Donc c'est bien, je suis content d'eux.
Bah écoute, justement, on va en parler. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on va parler de la conférence Google I.O., Google Input Output, dans laquelle ils présentent tous les printemps, un petit peu comme d'autres grandes sociétés de la Silicon Valley, leurs nouveautés, leurs innovations et le programme des choses à venir pour les mois et les années à venir, justement. C'était il y a quelques jours de ça, une petite semaine, et ils ont annoncé un certain nombre de choses concernant leur OS principal Android, mais également beaucoup de recherche et développement, on va dire, et de travaux qu'ils font plus dans des laboratoires que ce qu'on va pouvoir avoir dans nos mains ou entre nos claviers dans les mois et les années qui arrivent. Et il faut dire que les années précédentes, les quelques dernières années, la conférence Google I.O. était un petit peu, je ne sais pas très bien comment la qualifier, mais un petit peu mollassonne, on va dire. Mmh. Et c'était en partie dû au fait que le produit grand public Android n'était pas vraiment mis en avant. J'irais même jusqu'à dire qu'il était mis en retrait et que les innovations, enfin, les nouveautés des versions d'Android, des nouvelles versions d'Android, étaient plutôt pas hyper enthousiasmante, je crois, même de l'aveu des gens qui l'utilisent et qui aiment l'OS. Et dans l'ensemble, ça se répercutait sur le reste de leur présentation. Peut-être qu'il y a une certaine, comment dire, une expertise moins grande des équipes de Google dans la mise en scène marketing qu'on peut trouver chez d'autres avec plus ou moins de succès, mais chez Apple ou Samsung, où c'est vrai qu'on sait un petit peu plus faire le show et monter l'enthousiasme. Mais d'une manière générale, l'impression que j'avais, et je vais être honnête, que j'ai encore pour cette présentation, c'est un peu que Google est une machine à avancer sur son moteur de recherche et que tout ce qu'ils ont présenté, c'est des trucs qui sont à côté, mais vraiment à côté de leur cœur de métier qui est le moteur de recherche sur Google.com, bien sûr, et sur YouTube à côté. Mais bon, c'est vrai que Android, c'est sympa, c'est une nouvelle interface. Il n'y a pas de choses monumentalement différentes. Il y a des choses intéressantes du côté des montres avec Wear OS 3.0 dont on va parler un moment. Et puis à côté de ça, il y a beaucoup de choses du côté de la recherche fondamentale avec des projets d'intelligence artificielle, de langage, mais aussi des projets de vidéoconférence photoréaliste, même plus que photoréaliste, qu'on va évoquer aussi. Mais dans l'ensemble, je ne peux pas m'empêcher de me dire « Ok, mais qu'est-ce que ça m'apporte, moi, ces choses qu'ils ont présentées ?» Et je trouve que c'est une opportunité manquée dans les présentations. Benoît, toi, tu avais l'air plus enthousiasmé par ce qui a été présenté. Est-ce que c'est Android qui t'a plu ? Est-ce que c'est d'autres choses ? Tu peux nous dire ce qui t'a titillé dans cette présentation ?
Alors moi, je trouve justement qu'on est dans un moment, alors c'est peut-être moi qui suis de bonne humeur, mais où la présentation, pour moi, a fait du sens parce qu'on voit justement des applications concrètes. Alors je te donne un exemple, quand tu dis qu'ils n'ont pas fait grand-chose dans le moteur de recherche, c'est vrai que ce n'est pas le truc qu'ils ont mis le plus en avant, mais comme tu l'as dit, ils travaillent sur tout ce qui est langage, et un des éléments qu'ils ont mis en avant, ils ont plusieurs façons de traiter le langage, c'est toute l'intelligence artificielle, du machine learning, mais ils ont maintenant des nouveaux modèles, dont un qui s'appelle MUM, qui va permettre de faire beaucoup plus de choses, mais en particulier essayé de casser la barrière des langues. Donc, le truc typique qu'on voit, c'est que maintenant, on peut avoir des traductions automatiques en direct. Ça s'est annoncé depuis longtemps. Hein. Microsoft l'a, je crois, annoncé en premier il y a des années. Mais aussi, le web reste très en silo. Et finalement, s'il y a une réponse en japonais qui est pile ce qu'on a besoin, eh ben, on n'a pas accès. Et ça, on commence à voir chez Google des changements où finalement, parce qu'ils savent déjà traduire, on va aller chercher l'information là où elle est, quel que soit le langage, et bientôt, quel que soit, c'est un truc qu'ils font aussi déjà, quel que soit le format. Hein, on le voit en vidéo, on le voit en photo, etc. Et je trouve que typiquement dans cette présentation, moi j'ai eu le sentiment que là, je voyais vraiment le jalon pour ce futur-là, que je trouve hyper intéressant au niveau de la recherche. Alors peut-être que pour toi, c'est évident, je ne sais pas, tu ne l'as pas senti, cette espèce de où on casse les barrières ?
Je sais, alors tu sais, pour la langue, pas vraiment, mais surtout, c'est peut-être un artefact de la manière dont ils présentent les choses. Ce dont tu parles, c'est, dis-moi si je me trompe, mais c'est Lambda, un nouveau moteur de vocalisation, d'intelligence artificielle conversationnelle, qui est, selon eux, une avancée significative dans les capacités de ces intelligences artificielles pour les conversations. Ils ont donné deux exemples dans la présentation qui étaient un petit peu étranges, franchement, et c'est peut-être pour ça que moi, ça ne m'a pas énormément parlé. Ils ont eu une personne qui avait une conversation avec la planète Pluton. Oui, vraiment, vous avez bien compris. Ouais. Donc, il parle avec la planète Pluton ou elle parle avec la planète Pluton. Et une autre personne qui avait une conversation avec un avion en papier, et il posait des questions sur l'avion en papier, sur la planète Pluton. La planète Pluton répondait, alors voilà, je suis constitué de tel et tel truc, il faut tant de temps pour voyager de telle distance à telle distance. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance conversationnelle. Et je dirais que c'est impressionnant, mais il y a deux petits astérisques. D'une part, c'est impressionnant, comme toutes les présentations ont été impressionnantes ces 10 dernières années. Et il y a des évolutions, c'est vrai, mais à chaque fois, on nous dit « Ah ben, regardez comme c'est mieux !» Et puis tu dis « Oui, mais ok, c'était déjà très mieux avant. » C'était très mieux avant, je pense qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses, mais en particulier à ce genre de modèle conversationnel. Et d'autre part, on a eu justement des annonces d'avancées substantielles dans ces domaines. Et ce n'est pas très impactant. Et ils ont dit après la présentation, oui, alors évidemment, on a parfois des aberrations dans les réponses, des choses qui ne correspondent pas. Et du coup, tu dis, OK, donc ils nous ont présenté le truc qui fonctionne, mais il y aura aussi, comme toujours, des trucs qui ne fonctionnent pas. Et j'ai aucun doute qu'au niveau scientifique, il y a quelque chose de substantiel qui s'est passé dans leurs algorithmes. Mais je trouve que ça ne se traduit pas dans l'impact qu'on peut voir dans une présentation. Peut-être qu'à partir de dans 6 mois, l'intelligence artificielle de Google, l'assistant Google, sera sensiblement plus capable et on se rendra compte, oh mon Dieu, il fait beaucoup mieux qu'avant. Mais je n'ai pas l'impression que ça se ressent dans la présentation vraiment directement. Comparé à d'autres présentations. Si ça marche toujours comme ça, oui, c'est top. Mais dans toutes les présentations qu'on nous fait, c'est censé être top et comme ça, tu vois. Donc,
peut-être pour non, ça. Non, mais t'as raison. Lambda, là, je suis d'accord. Et le truc, c'est qu'ils font beaucoup, évidemment, le langage. Bah, c'est leur cœur de métier, hein, d'une façon ou d'une autre, encore. Mais non, ce dont je parlais, c'est ce Multitask Unified Model, MUM, même. Qui est justement cette façon de mettre ensemble ces nouvelles itérations de leur intelligence artificielle pour tout ce qui est recherche, en fait. Donc, ils ont quelque chose qui est en place depuis 2019, qui est déjà du machine learning, mais maintenant, ils l'ont amélioré. Et je pense que c'est là où on verra des éléments vraiment intéressants. Alors, par contre, tu as raison, et c'est peut-être un peu le challenge du type des présentations de Google, c'est que c'est pas hyper impressionnant, je veux dire. C'est juste mieux dans ta vie et tu vas avoir une bien meilleure expérience à la fin. Mais c'est vrai que le montrer sur scène, je ne sais pas comment tu fais. Ce qu'ils ont montré, malheureusement, je suis d'accord. Tu es là, puis bon, c'est un peu comme souvent avec Google quand ils présentent. Tu dis, est-ce que tu veux vraiment laisser à des ingénieurs le choix des présentations, quoi. Je suis d'accord là-dessus.
C'est un peu ça, c'est vrai. Bon, donc ça, c'est du côté de l'intelligence artificielle. On va parler d'Android, bien sûr, parce que c'était quand même le gros morceau. Je voudrais évoquer un autre élément qui était assez intéressant. C'est ce projet qui s'appelle Starline, qui est un projet, on va dire, de vidéoconférence, mais c'est un peu ne pas lui faire justice que de dire c'est un projet de vidéoconférence. C'est un développement de nouveaux outils pour transmettre la présence de quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'écran ultra haute résolution d'un côté, donc on va voir la personne en face, mais ça ne transmet pas que l'image, ça transmet également des données très précises en 3D, et ça reproduit sur l'écran grâce à une technologie qui s'appelle Lightfield, qui est la possibilité de faire de la 3D sans lunettes ou sans accessoires sur la personne qui regarde. Et donc, quand on est assis au bon endroit en face de cet écran géant de 65 pouces qui est juste en face de nous, on a l'impression de voir la personne vraiment en face de nous, grâce à ce medley de technologies, informations 3D, vidéo, etc. Et donc, c'est ultra réaliste et on a l'impression que la personne, c'est comme si on avait un miroir, sauf que au lieu de nous voir nous, eh ben on voit la personne avec laquelle on est en train de parler. Et là encore, c'est un projet qui est intéressant, mais qui, à mon sens, rentre dans cette catégorie de ça a l'air cool, mais c'est de la recherche. Est-ce que ça va m'être utile demain? Il faut une installation très spécifique. C'est cool que Google le fasse et qu'ils soient enthousiasmés par le projet et les capacités que ça leur ouvre. Et peut-être que ça se retrouvera dans des produits grand public, consommateurs, dans 5 ou 10 ans. Mais à ce stade, est-ce que ça me procure une sorte d'excitation dans la présentation de Google? Pas vraiment. C'est genre, ah ok, bon, bah, peut-être un jour, quoi. Mais c'est intéressant.
Je pense que tu as raison sur le... Déjà, on est tous dans une période de Zoom fatigue où on n'a plus envie de voir forcément tout le monde avec la vidéo. Donc, c'est vrai que moi, je pense qu'au quotidien, ce n'est pas une technologie que j'attends. Mais ma femme est psychologue.
Juste pour préciser, ouais, par rapport à la vidéoconférence qu'on utilise habituellement, l'intérêt de cette chose-là, ce n'est pas juste pour faire de la vidéoconférence. Leur intérêt à eux, c'est justement de créer de la vidéoconférence qui ressemble à de la présence pour qu'on n'ait pas tous les désavantages qu'on a avec les... conférence Zoom, c'est-à-dire qu'on retrouve des conférences entre guillemets classiques, on a l'impression d'avoir la personne en face de soi et on n'a pas les problèmes de 12 personnes qui nous regardent en même temps et on ne sait pas qui regarder, on n'a pas le contact visuel, le eye contact, etc., etc. Donc l'idée, c'est de proposer une meilleure alternative aux vidéoconférences classiques. Je voulais juste le préciser, mais tu as raison, parce que la Zoom fatigue, c'est assez réel, bien sûr.
Oui, mais moi, c'est plus mon côté, justement, ancien Google qui parle. Mais toi, je suis content de ne pas voir les gens à la limite quand je n'ai pas besoin. Mais il y a des métiers, c'est là où je disais, ma femme est psychologue, où typiquement, tu vois, là, je vois une valeur ajoutée assez évidente, quoi. Parce qu'il faut cette relation assez claire, etc. Donc là, je pourrais vraiment voir de la valeur. Mais en même temps, ça me semble cohérent avec tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on voit sur la réalité augmentée. Ou finalement, c'est plutôt dans les utilisations professionnelles où il y a de la valeur plutôt que du grand public. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on voit. Et moi, ça me semble aller un petit peu dans la même direction. Donc, est-ce que je vais être un utilisateur? Sincèrement, ce n'est pas un truc que j'ai envie d'utiliser demain. Par contre, tu vois, quand tu as certains meetings clés, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais je suis d'accord avec toi ici, c'est plutôt un truc sympa, toi, plus pour faire rêver pour le moment. Je pense pas que c'était, je pense pas que c'était la plus grosse annonce, mais c'est intéressant ce qu'ils arrivent à faire, c'est clair.
Et pour préciser, donc, il faut être dans une cabine. On peut pas utiliser un ordinateur classique. Il y a une cabine avec du matériel dédié. C'est le genre de choses qu'il faudrait, par exemple, installer dans un bureau, mais qu'on peut pas encore, tel que c'est conçu, avoir chez soi. Et la projection en light field fait que il faut être vraiment à l'endroit où on est censé être pour voir la 3D, sinon ça devient flou, enfin voir la personne en profondeur. Donc c'est difficile à utiliser avec plusieurs personnes, ou en tout cas il y a peut-être plusieurs personnes à l'image. Bref, c'est pas un truc qui sera dans la webcam de votre ordinateur dans 2 ans, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc peut-être des utilisations professionnelles, mais une psychologue ou un psychanalyste, par exemple, ne peut pas vraiment le faire avec ses clients qui le font de chez eux, même si la personne en question a la chose installée chez elle. Donc là encore, c'est un peu plus compliqué, même si la possibilité existe à long terme. Bon, il y a d'autres choses dont on pourrait parler, comme leur ordinateur quantique qu'ils ont prévu pour 2029. C'est bien, ils ne vont pas trop vite hein, en besogne. Ils sont un petit peu plus réalistes que d'autres projets peut-être pour les ordinateurs quantiques. Mais parlons donc de Android version 12 avec une chose qu'on évoquait la semaine dernière, c'est Material U, qui est la nouvelle grammaire d'interface d'Android, qui est un petit peu comme le Material Design, qui est un retour un petit peu au design plat et beaucoup moins skeuomorphique, même qui était le skeuomorphisme était la mode pendant de nombreuses années. Là, depuis quelques années, ça, on revient en arrière. Et donc, on a ce Material, qui est le langage de design de Android 12, qui est personnalisé de manière assez importante. Donc, on peut choisir l'exemple principal qu'il donne, c'est en choisissant un fond d'écran, eh bien, on va avoir une palette de couleurs qui est inspirée de ce fond d'écran qui va se retrouver dans toute l'interface de tout l'OS, y compris les applications qui implémenteront ces fonctionnalités-là. Et c'est vrai que c'est une refonte substantielle de l'interface de Android, de l'OS Android. Et c'est une refonte, je dirais, qui fait du bien parce que ça fait un moment que c'était un petit peu stagnant. Il y a des éléments un petit peu plus profonds que simplement l'aspect visuel, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y a rien de vraiment fondamental dans l'utilisation de l'OS. Donc, sur Android 12, je te pose la question, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ? Il y a quelques éléments comme plus d'informations sur la vie privée, mais pas vraiment de contrôle, enfin, de contrôle sur ce à quoi peuvent accéder les apps. C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup facilité la chose, mais pas vraiment d'obligation, comme le fait Apple, de ne pas utiliser certains éléments pour la personnalisation des publicités. Il y a aussi des petites fonctionnalités comme la clé virtuelle qui sera utilisable notamment, c'est chez BMW, je crois, très bientôt. Donc, ce genre de petites choses. Mais bon, donc voilà pour le résumé d'Android 12. Est-ce que ça t'a plus parlé qu'à moi ?
Alors peut-être, tu sais, moi j'étais content du design à partir de Android 1. Donc, je ne suis pas très exigeant à ce niveau-là. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu considères que tu es quelqu'un qui a du goût ? Toi, moi, mur blanc, c'est à peu près là où s'arrêtent mes compétences. Donc, mais pour toi ?
Écoute, moi, je suis à la fois parisien et nordique. Donc, je trouve que, évidemment, le goût est important. Et donc, dans les vêtements, il y a... tu peux choisir toutes les couleurs que tu veux tant que c'est du gris ou du noir. Ça, c'est pour l'aspect parisien. Et pour le nordique, dans l'ameublement, on a aussi beaucoup de liberté à partir du moment où on choisit du blanc pour les meubles et les murs. Donc oui, moi, je pense que j'ai beaucoup de goût, mais je ne suis pas certain que ça soit le goût des autres qui, eux, évidemment, ont tort. Mais on est un petit peu dans cette subtilité, tu vois, dans Android 12... les palettes de couleurs sont généralement assez uniformes. On a une ou deux couleurs plates et c'est à peu près tout. Donc, il y a une certaine élégance, je trouve, moi.
Et attends, parce encore une question personnelle. Dark mode ou normal mode de ton téléphone ?
Souvent dark mode.
Ok, ouais, c'est intéressant. Moi, je dois dire, c'est vrai que là, j'ai pris un Pixel 5 hein, récemment pour le téléphone parce que je voulais justement revenir au stock Android, hein, comme on dit, donc à l'Android pur sans aucune couche. Comme ça, on peut avoir les dernières nouveautés qui arrivent. Donc, pour cette raison-là, je suis content parce que ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont faire. C'est vrai que ce n'est pas un besoin que j'ai ressenti en me disant « Ah mon Dieu, l'interface, je ne peux pas l'utiliser, tu vois ». Mais je suis curieux surtout de voir comment ils vont arriver à intégrer les choses, c'est des détails de la vie au quotidien, je suis d'accord, typiquement la clé c'est cool, mais bon, c'est pas le truc non plus où tu te dis je vais changer de téléphone pour pouvoir ouvrir ma BM ouais.
On est d'accord, écoute je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas plus à dire. On pourrait, si on était à un podcast spécialisé sur Android ou s'il y avait des choses plus impactantes, on pourrait passer plus de temps sur Android. Mais là, je suis un petit peu déçu que finalement, il n'y ait pas beaucoup de choses à dire en plus. L'interface est cool, mais c'est malheureusement un petit peu ça. Alors, il y a des petits détails qui plairont certainement aux utilisateurs d'Android qui attendent ce genre de choses, mais je trouve qu'il n'y a rien qui dépasse le cadre de l'OS lui-même et qu'on puisse noter pour l'informatique des smartphones en général et les interfaces des smartphones en général.
Mais sincèrement, c'est ça. Moi, le smartphone, et c'est là où j'ai trouvé le Google I.O. intéressant. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a regardé à d'autres endroits, tu sais, parce que moi, le smartphone, je ne veux pas en entendre parler. Ça m'est égal, toi. J'ai pris un truc le plus simple. On est vraiment devenu, c'est comme, j'ai plus envie qu'on me parle de mon PC ou de, tu vois, ça ne m'intéresse pas le hardware maintenant.
C'est ce qu'on appelle en anglais la commoditisation de l'informatique. C'est-à-dire que quand un truc qui est commoditisé, c'est un appareil qui est devenu suffisamment générique pour qu'on n'ait plus vraiment envie d'avoir telle ou telle marque ou tel modèle. On veut juste un truc qui marche et ils sont un petit peu échangeables. Et c'est vrai qu'on est possiblement à ce stade pour certains dans les smartphones aussi, quoi.
C'est ça. Et donc, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est toi, qu'est-ce qui est dessous? Alors, on a déjà mentionné le langage, par exemple, hein, qui arrive et qui sous-tend vraiment avec cette intelligence artificielle de plus en plus de fonctions. Mais il y a un autre angle, et je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais que je trouve hyper intéressant, c'est tout ce qu'ils font dans la santé. Alors, typiquement, je ne sais pas, moi, j'ai un truc que j'utilise de temps en temps parce que ça m'amuse. Maintenant, mon téléphone me permet de prendre mon pouls. Donc, je fais des exercices, puis à la fin, tu mets le doigt sur la caméra, si tu as assez de lumière, tu as ton pouls. Un truc que je ne faisais pas avant, parce que je n'ai pas envie d'avoir une montre ou un truc comme ça, donc ça ne m'intéressait pas. Mais je trouve ça hyper pratique et je trouve que c'est une fonctionnalité de plus que me permet quelque chose que j'ai de toute manière sur moi. Et je vois ici, ils ont typiquement de nouveau, grâce à tout ce qui est dans l'intelligence artificielle liée aux images, ils ont des petits projets qui te permettent typiquement de faire la même chose. Alors là, ce n'est pas directement sur ton téléphone, mais avec, tu sais, la peau. Si tu as des grains de beauté et tout ça, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Et ça te permet d'utiliser ton téléphone pour répondre à une question que tu peux avoir sur l'état de ton grain de beauté, ou de manière peut-être plus triviale, mais qui a toutes sortes d'applications utiles, je trouve,
Je précise pour le grain de beauté, parce que ce n'est peut-être pas clair pour les auditeurs, ils peuvent, avec une photo du grain de beauté, et par comme toujours, un algorithme de deep learning, déterminer si le grain de beauté est bénin, ou si ça peut être peut-être quelque chose de cancéreux qu'il faut faire examiner par un médecin. Et donc, c'est l'un des éléments qu'ils ont présenté dans leurs efforts pour la santé. C'est ce dont tu parles.
Oui, exactement. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu aussi, ils ont refait référence, alors là, je fais un petit détour, mais sur une étude par Google sur les mammographes, les mammographies, où justement, ils ont prouvé que leur intelligence artificielle était beaucoup plus douée pour les mammographies. On le sait, hein, c'est la même chose pour tout ce qui est des scans, des poumons ou autres, que des spécialistes. Donc ça, c'est des trucs intéressants, mais qui sont un petit peu plus, disons, éloignés des besoins du quotidien. Mais l'autre truc que je trouve intéressant, c'est quelque chose qu'ils appellent « little patterns », où typiquement, tu peux choisir un élément dans une photo et l'intelligence artificielle, dans le cas présent, bon, il va simplement reconnaître ce petit pattern, mais aussi essayer de faire une histoire avec. Alors, ce qu'ils prennent comme exemple, c'est un sac à dos. Et donc, si tu fais une marche, eh ben, à chaque fois qu'il voit le sac à dos, il va pouvoir savoir que c'est un truc d'intérêt qui unifie finalement tes photos.
Parce que maintenant, en fait, il va trouver les patterns, les motifs, comme le sac à dos qui est présent dans toutes tes photos, il va en faire quelque chose.
Voilà. Donc, si tu tapes « chat » dans ton téléphone, bah, tu as toutes les photos de ton chat ou de ta famille ou de ce que tu mets qui sortent. Mais ici, on arrive à un niveau un peu plus fin. Et moi, c'est toutes ces petites choses-là qui me rendaient vraiment intrigué et intéressé par ce qui allait venir. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à ce moment où ça se rapproche de nos vrais besoins. C'est plus forcément la technologie qui dit voilà ce que vous pouvez faire, mais elle s'adapte à ce qu'on veut faire. Tu n'as pas cette impression ?
Un petit peu, mais c'est tellement léger que je ne suis pas, on va dire, c'est pas impactant, marketingment parlant, et peut-être que c'est le seul, c'est ça qui, c'est moi qui suis coupable de ne pas y voir. Mais non, bien sûr, le fait de pouvoir examiner un grain de beauté et de savoir si c'est quelque chose de dangereux ou pas, évidemment que c'est important, mais c'est à côté, j'irais, de... Je sais pas, c'est pas ce que j'attends d'une présentation. C'est même pas que c'est pas ce que j'attends. C'est cool que ça existe et peut-être qu'il faudrait qu'il l'ait mis plus en avant ou de manière différente. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, la conférence était pas unifiée. Il y avait pas de vision. Il y avait pas de Bref, on va parler, puisqu'on parle de santé, on va parler de la montre aussi. Mais je veux préciser peut-être que je ne rends pas justice à Android 12. D'une part, c'est vrai que graphiquement, visuellement, c'est quand même une jolie mise à jour. Et je dois le dire clairement, parce que je ne l'ai peut-être pas dit clairement. Et d'autre part, c'est vrai que les modifications qu'ils font pour le contrôle de la vie privée sont importantes. C'est-à-dire qu'ils vous disent quand une application, de la même manière que c'est déjà le cas sur iOS, mais il n'empêche, quand une application utilise votre caméra, votre localisation, etc., ça, c'est visuellement plus compréhensible à l'écran. Et puis, on peut très facilement accéder à un centre de contrôle qui vous permet de contrôler quelle application a accès à quoi très très facilement. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est juste que, bon, c'est peut-être pas un OS aussi important que, enfin, des changements aussi importants que je l'aurais voulu. Mais on a un autre élément qu'il faut parler, et ça sera sans doute, dont on doit parler, et ça sera sans doute le dernier. C'est peut-être même le plus important de toutes les annonces dont on a parlé jusqu'à maintenant. C'est Wear OS, ou Wear, qui est donc l'OS pour montre d'Android, qui a reçu, on va dire, un souffle de jeunesse, avec d'une part un engagement renouvelé de Google envers cet OS, et d'autre part une union sacrée avec Samsung, qui était parti, qui faisait cavalier seul avec son OS pour montre qui s'appelait Tizen. Alors, dans la présentation, ils disent Wear OS et Tizen vont fusionner. J'ai l'impression qu'ils vont surtout ajouter les fonctionnalités qui marchaient dans Tizen à Wear OS. C'est pas que tout à coup ils vont fusionner le code source ou quelque chose comme ça. C'est vraiment Wear OS, donc basé sur Android, auquel ils vont ajouter des fonctionnalités de Tizen. Ce qui fonctionne pour Samsung, parce que Samsung ne le faisait que par nécessité, parce que Google n'était pas suffisamment actif derrière Wear OS, et donc ils avaient choisi de faire autre chose eux-mêmes. C'était genre, bon, bah, si vous ne le faites pas, on va le faire nous-mêmes. Mais je ne crois pas qu'ils aient envie de se lancer dans ce type de développement qui est quand même assez lourd. Et puis en plus de ça, il y a évidemment le rachat de Fitbit par Google, qui a été validé il y a quelques mois de ça, qui ajoute tout un pan santé à la montre de Google, ou aux montres de Google, à l'OS, qui va être sans doute important, puisque on l'a vu avec l'Apple Watch, c'est l'un des éléments importants des montres connectées et des montres intelligentes aujourd'hui, ou en tout cas de WatchOS et de l'Apple Watch. Eh bien, il va y avoir tout cet élément qu'a développé Fitbit qui va pouvoir être intégré à Wear OS. Donc, j'ai l'impression que c'est un renouvellement de l'engagement de Google vers Wear OS, ce qui est pas mal parce que ça veut dire qu'on peut avoir, on va pouvoir avoir des montres qui fonctionnent optimalement, idéalement, avec Android pour les utilisateurs de cet OS. Est-ce que tu vas, du coup, arrêter de prendre ton pouls avec ton téléphone et t'acheter une montre enfin, Benoît ?
Eh ben voilà, je crois que tu as pointé exactement vers ce que je me demandais en t'écoutant, parce que j'étais en train de me dire, est-ce que je pourrais me rajouter un truc ? Mais surtout pas ! Surtout pas pour moi. Alors, je comprends et grand bien vous fasse si vous adorez votre montre intelligente. Bravo. Mais pour moi, c'est le pire des mondes parce que mon téléphone fait tout, à part que quand je le veux pas, je le pose sur le bureau. Il comprend que quand il est posé la face contre le bureau, il doit pas m'embêter. Donc voilà, bravo, c'est très bien. Et du coup, moi, je suis vraiment pas du tout preneur de ce type d'outils. Mais en même temps, c'est parce que, tu vois, il offre pas encore des fonctionnalités que je ne peux pas avoir sur mon téléphone. Tu vois, mon téléphone compte les pas, alors un petit peu moins bien peut-être. Il fait tous les trucs qui m'intéressent finalement, qui m'intriguent. Donc, je trouve intéressant, en tout cas, effectivement, ce rapprochement. Hein. Je pense qu'il dit plus un petit peu de la faiblesse des deux parties prenantes. Hein. Je ne sais pas si tu seras d'accord là-dessus, dans leurs marchés respectifs, que vraiment d'une volonté, je pense, de mariage, d'amour. Mais en même temps, c'est une bonne chose. C'est toujours, si tu veux, on aime la variété. Et puis, moi, quand je vois que la variété disparaît, je me dis, bon, ben voilà, quoi. C'est quand même, on va avoir moins d'innovation. Donc, pas que j'aurai assez une smartwatch Samsung, mais voilà.
C'est l'éternelle problématique. Hein. Soit on a une plateforme unifiée qui permet de développer les possibilités sur cette plateforme-là et les interactions et le fonctionnement intelligent des différents appareils ensemble. Mais du coup, forcément, ça réduit un petit peu la diversité. Mais je crois qu'à ce stade, les montres connectées ont besoin de faire partie d'un écosystème cohérent. Et je pense que c'est pour ça que les montres Android n'ont pas vraiment décollé. Et je crois que là, c'est une opportunité pour les montres, justement. Parce que quand on avait d'un côté les montres Samsung et de l'autre les fébriles montres Android Wear OS, eh ben, en fait, aucune des deux ne fonctionnait. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'alternative sérieuse dans le marché des smartwatches à iOS, enfin, ou plutôt à WatchOS, aux montres Apple. Là, au contraire, ça va donner, ça va créer, je pense, une alternative à l'Apple Watch, une alternative cohérente possible à l'Apple Watch. Donc oui, on perd une sorte de multiplicité des possibilités entre Tizen et Wear OS parce qu'ils sont unifiés, mais au contraire, ça va donner, on remplace deux alternatives quasiment inexistantes par une qui fait une vraie concurrence à WatchOS. Donc je pense que ça va plutôt être positif au final.
Ouais, non, je pense que tu as raison, surtout la cohérence. C'est vrai que tu ne dois pas t'apercevoir que tu passes d'une interface à l'autre. Ça, je pense que c'est vraiment le but ultime, que tu le fasses n'importe où, pas que tu dises « Ah, je dois utiliser mon téléphone, ah, je dois utiliser ma montre ». Je pense que pour la clé, toi, je préfère avoir la clé sur ma montre que sur mon téléphone. Si tu dois faire des trucs et tout ça, il y a des endroits où c'est vraiment la bonne interface, effectivement. Mais bon, c'est vrai que je suis curieux de voir, est-ce qu'ils ont annoncé quoi que ce soit ? C'est vrai que ça, je me suis moins intéressé sur le hardware même, ou c'était vraiment juste sur ce mariage un petit peu qu'ils ont mis l'accent ?
On était uniquement software, et du coup, on peut conclure là-dessus. Effectivement, pour tout ce qui est matériel, eh bien, il faudra attendre la rentrée à l'automne. Et on a, comme on en parlait la semaine dernière, des rumeurs sur, d'une part, les Pixel 6, et d'autre part, la montre la montre Google, la montre qui bénéficierait de ce nouvel OS repensé, refondu. Et donc, non, le matériel, ça sera pour la rentrée. Et c'est à ce moment, peut-être, qu'on aura quelque chose de vraiment enthousiasmant à ce niveau-là.
OK.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un joli tour de ce Google I.O.
J'ai encore une chose que j'aimerais peut-être mettre là. Et là, tu me pardonneras parce que c'est un peu le côté. Mais comme tu es aussi ancien développeur, je pense que je suis déjà pardonné. Mais en fait, il y a une nouvelle que j'ai trouvée intéressante et plus au niveau d'organisation que vraiment au niveau de la technologie. Mais c'est ce qu'ils appellent le Carbon Intelligent Load Shifting. Alors, le load shifting, c'est simplement quand on écrit un programme qui est distribué, qui va dans le cloud, de savoir quel ordinateur va prendre le job finalement. Oui. Et puis, s'il y en a plusieurs, on distribue entre plusieurs ordinateurs. Mais jusqu'ici, la mesure qu'on utilisait quand on était une société comme Google, c'était qu'est-ce qui est le plus efficace. Et donc, on bourrait les serveurs là où on pouvait pour aller le plus vite, par exemple. Et maintenant, on voit un changement que je trouve vraiment intéressant, alors qui est un petit peu bas niveau, mais c'est qu'ils vont attendre pour faire certaines tâches qui ne sont pas indispensables, par exemple, taguer des photos, et ils vont aller là où ils auront le moins d'impact au niveau énergétique. Et donc, le distribuer dans le monde, alors en respectant la vie privée que tu as bien mis en avant, mais vraiment d'essayer d'utiliser une nouvelle mesure pour qu'est-ce que c'est d'être efficace quand on fait de l'informatique. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est un des effets qu'on a de la discussion actuelle. Voilà, donc des fois, ce n'est pas toujours les plus visibles qui ont le plus d'impact, mais ça, quand on a la taille de Google, s'ils arrivent à le faire à l'échelle, ça aura un vrai impact. Et d'ailleurs, ils sont assez, comme toutes ces boîtes web, comme toutes ces boîtes comme Apple et autres, très fiers de leur bilan carbone qu'ils mettent en avant constamment, etc. Quoi.
Écoute, c'est effectivement on va dire que ça va dans le bon sens et c'est une manière assez intéressante d'approcher le problème.
Mais toi, c'est surtout de se poser les bonnes mesures. Et c'est ça qu'on attend des sociétés aujourd'hui, c'est de... Toi, quand tu penses comme ça, tu es en train de penser à pas que à tes shareholders, aux personnes qui ont des actions, mais aussi aux autres. Et donc vraiment, moi, je prends ça comme un signal faible de quelque chose que je veux voir plus. Voilà, et j'arrête là.
Oui. Ce que je dirais, c'est que ça c'est aussi pour les actionnaires, puisqu'ils ressentent la pression du public qui exige ce genre de choses. Donc, mais bon, bref, ça, ça serait une autre discussion. J'ajouterais du coup, moi aussi, un petit truc, j'en profite. On a une annonce qu'on va avoir le premier magasin Google à New York. Évidemment, on ne parle même pas d'Apple Store, mais on a eu quelques Samsung Store ou Microsoft Store. Eh bien, on va avoir un Google Store à New York qui va présenter les nouveautés matérielles de Google, ce qui est assez intéressant. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi une société web essentiellement dématérialisée crée des magasins, mais bon, ça veut dire qu'ils ont une intention physique et puis peut-être qu'il y a quelque chose de représentativité, etc. Ça ouvrira à l'été 2021 à New York.
Bon, intéressant.
Eh bien, écoutez, je vous propose de faire une petite pause et une fois n'est pas coutume et deux fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler de Patreon dans cette petite pause. Pour la deuxième fois et a priori la dernière fois, je vais vous parler d'un outil que j'utilise régulièrement qui s'appelle ExpressVPN. ExpressVPN, c'est un VPN, comme vous le savez. Et un VPN, c'est quoi ? C'est un outil informatique qui vous permet de faire passer tout votre trafic web et tout votre trafic internet dans une sorte de tunnel virtuel qui va le faire ressortir à un autre endroit du monde. Alors, ça peut être juste à côté de chez vous, ça peut être à l'autre bout de la planète, et l'intérêt de la chose est multiple. D'une part, ça peut vous aider à protéger votre vie privée, c'est quelque chose d'important évidemment pour beaucoup d'entre nous. Ça peut aussi vous aider à accéder à des contenus auxquels vous n'auriez pas accès autrement. Ça peut simplement vous donner un moyen simple de vous assurer que quand vous êtes sur un réseau ouvert, un réseau dans un aéroport, un réseau dans une boutique ou même chez un ami, personne ne va pouvoir regarder ce qui se passe dans votre trafic sur votre téléphone. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui passent par notre téléphone. Donc, il y a tout un tas de raisons d'avoir un VPN dans la poche et de pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. Évidemment, on peut installer le VPN sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur tous vos appareils. Et moi, le VPN que j'utilise, auquel je suis abonné depuis des années maintenant, c'est ExpressVPN. Pourquoi ? Il y en a plein des VPN, et il y en a plein il y en a tellement qu'il est difficile de savoir lesquels sont bons. Moi, la raison pour laquelle je suis abonné à ExpressVPN, c'est qu'il est fiable. Mine de rien, un VPN payant, il y en a des gratuits. Sincèrement, je ne leur fais pas confiance aux gratuits parce qu'on ne sait pas comment ils font leur argent. Et donc, au moins avec ExpressVPN, on sait qu'ils font leur argent parce que vous les payez. Et surtout, c'est un VPN qui est extrêmement rapide et extrêmement fiable. Non seulement il est rapide parce que quand vous êtes connecté, vous faites vraiment pas la différence avec la connexion sans VPN, ce qui peut être un problème avec des VPN de moins bonne qualité. Là, franchement, j'ai une connexion qui est c'est de la fibre à 700 mégabits. Je sens pas la différence quand j'ai et quand j'ai pas le VPN. À moins que je sois connecté vraiment à l'autre bout du monde, mais ça, c'est dans des cas particuliers. Et justement, la connexion est hyper rapide. Non seulement quand on est connecté, on a une grosse bande passante et un bon ping, mais en plus de ça, quand on est connecté, quand on veut se connecter, on peut se connecter en quelques secondes. Ça prend généralement 5 secondes entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où on est connecté. Franchement, ça a l'air de rien, mais ça veut dire que moi, du coup, je peux utiliser mon VPN plus souvent parce que je n'ai pas besoin de m'embêter à me dire « il va falloir que ça prenne 30 secondes, machin ». Ça a l'air de rien, mais moi, ça me plaît beaucoup. Et donc, on peut se connecter soit à côté de chez soi, plutôt pour protéger la vie privée, soit dans un autre pays pour profiter de contenu, par exemple, sur des services de VOD qui n'ont pas le même contenu ici ou là. Et on peut avoir des animés qui sont au Japon ou aux États-Unis par exemple, et on sait que dans certains pays il y a des chronologies qui font qu'on n'a pas accès à beaucoup de choses, à beaucoup de contenu. Et puis il y a aussi un autre outil qui est hyper pratique, qui ramène tout ensemble avec ExpressVPN, c'est la sélection d'applications qui va utiliser le VPN et les autres ne vont pas l'utiliser. C'est-à-dire que moi, je peux avoir mon VPN qui est allumé pendant longtemps et je vais dire, ben, tel navigateur et telle application, elles vont utiliser le VPN et les autres ne vont pas l'utiliser, vont utiliser ma connexion classique. Donc, quand j'ai besoin d'avoir la connexion sur le VPN, bah, j'utilise le navigateur que j'ai marqué comme utilisant le VPN et le reste est complètement transparent. Donc tout ça, ça fait que moi, c'est mon VPN préféré. Et du coup, je suis allé les voir, je leur ai dit « Vous ne voudriez pas qu'on sponsorise l'émission ?» Ils m'ont dit « Bah oui, très bien, on va vous faire une petite URL, expressvpn.com/rdvtech, donc expressvpn.com/rdvtech, et si vous vous abonnez avec cette URL, vous avez droit à 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Donc si vous avez l'utilité, si vous avez besoin d'un VPN, je vous recommande, moi c'est simplement... avant même qu'on ne parle de sponsoring, c'est celui que j'utilise et celui que je recommande à mes proches, à mes amis. Donc voilà, si vous en avez besoin, je vous recommande ExpressVPN et je vous remercie d'aller sur expressvpn.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Si vous souhaitez vous prendre un abonnement, parce que vous aurez un bonus et moi, ça me donne un bonus également. Merci à vous tous et à ExpressVPN de sponsoriser l'émission.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bon, écoutez, on va parler maintenant de choses extrêmement sérieuses et de l'application Poparazzi. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Dites-moi à voix haute pendant que vous êtes en train d'écouter, que ça soit dans le métro ou chez vous. Est-ce que vous connaissez l'application Poparazzi ? Je pense que tout le monde a dit non maintenant. Eh bien, après cette petite explication, vous connaîtrez et vous connaîtrez avant tout le monde. Tu sais ce que c'est Poparazzi, Benoît ?
Alors, pas du tout. D'abord, évidemment, on se dit, mais il y a une faute d'orthographe, tu vois. C'est quoi ce truc ? C'est assez malin, mais non, j'ai découvert grâce à toi.
Alors, Poparazzi, c'est une application de un réseau social, encore un, qui est basé sur les photos et l'échange de photos. Et là, vous dites encore, non, mais vraiment, mon Dieu, on en a marre. Mais d'une part, il est extrêmement populaire chez les jeunes et chez les ados et les jeunes. Enfin, très populaire. Il vient de se lancer, hein, mais il a été au top de l'App Store hier soir, et généralement, c'est l'indication qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais le truc qui est intéressant avec Poparazzi, c'est que c'est un réseau social qui encourage à partager des photos, mais pas de selfies. Aucun selfie. Genre, vous n'avez pas le droit... Alors ensuite, on ne sait pas comment il régule ça, mais on n'a pas le droit, on n'est pas censé prendre des photos de soi. On est censé prendre des photos que de ses amis et des gens avec qui on s'amuse et on passe du temps ensemble. Et donc, l'idée est de rester dans cette simplicité, dans l'échange. Et d'ailleurs, il n'y a pas ni filtre, ni ajout texte, ni toutes ces conneries. C'est hyper simple. La seule chose un petit peu particulière qu'on peut faire, c'est que si on prend plusieurs photos, ça va créer un GIF donc qui va animer donc plusieurs photos à la suite avec une personne qui fait des mouvements. Ça fait un GIF sympa où on a simplement plusieurs mouvements de la personne. Et ça a quelque chose de très authentique, de très instantané, de très réel qui... semble-t-il, est en train de résonner avec une partie de la population. Et c'est intéressant de se dire, ah oui, entre parenthèses, il n'y a pas ni nombre de followers, ni ce genre de choses, ni likes sur les photos. Donc, ce n'est pas un exercice dans l'ego. Et ça fait longtemps qu'on sentait que cet exercice d'ego de tous les réseaux sociaux n'était pas apprécié par beaucoup de gens. Et je me demande, ça ne serait peut-être pas Poparazzi, mais je me demande si Poparazzi n'a pas réussi à capitaliser sur cette tendance, sur ce besoin. Je crois que c'est un besoin qui a été créé par le constant flattage d'ego des autres réseaux sociaux, à capitaliser sur ce besoin et à en faire quelque chose de sérieux. Je pense qu'on est à la bonne période en plus, avec la fin, on l'espère, des confinements sévères et une envie de sortir, de s'éclater et de passer du temps ensemble et de partager des photos de ses amis. Il n'est pas impossible qu'au minimum, je ne dis pas que Poparazzi va remplacer Instagram, mais au minimum, ça devienne peut-être un concurrent, par exemple, à Snapchat, qui est resté confidentiel, mais qui reste très présent. Enfin, confidentiel, j'exagère, hein, mais qui n'a pas atteint les sommets des autres réseaux sociaux. Peut-être que Poparazzi pourra devenir un équivalent, peut-être même un peu plus. Donc, Poparazzi, c'est l'app du moment. Il y en a tous les mois des apps du moment, mais il n'empêche. Est-ce que ça, ouais, c'est bon, tu vas installer Poparazzi ?
Écoute, sincèrement, je crois que tu as raison de faire la comparaison avec Snapchat, parce que à l'époque, hein, c'était contre-intuitif. Si vous allez réécouter le rendez-vous tech de l'époque, je sais pas ce que tu en disais, mais ce côté éphémère, on avait tous une sorte de sentiment que c'était pas bête. On se disait, mais est-ce que vraiment on va en faire quelque chose ? Et alors oui, le produit Snapchat a pas décollé autant, même si, comme tu l'as dit, il est toujours bien présent, mais il a changé notre façon d'appréhender le partage, dans ce côté où tout est plus gravé dans le marbre pour toujours, comme ça.
Ah ben les stories sont partout, oui, ça c'est une marque extrêmement importante de Snapchat sur le web, et cette éphéméralité des stories a changé une partie du contenu du web, c'est certain.
Et ça serait fantastique d'avoir le même effet de Poparazzi sur, effectivement, retourner la caméra. Alors, on en a des deux côtés des caméras, donc on n'a pas besoin vraiment de tourner. Mais voilà, de regarder vers l'extérieur et vers les autres, c'est bon. Quand on voit les dégâts à la santé mentale que créent les réseaux sociaux, et moi, je suis vraiment de ceux qui disent que dans quelques années, on se retournera vers une partie de cette industrie, comme on regarde les cigarettiers maintenant et les mensonges qu'ils ont faits par rapport aux études sur le dégât que peut créer le tabac et certains réseaux sociaux. Ici, on va arriver dans la même chose et je trouve que c'est tout à fait positif. Donc, je vois ça très bien. Alors, je vais avoir de la peine à convaincre mes amis, j'ai l'impression. Donc, bref, on verra ce qu'on peut en faire. Mais je compte aussi sur les utilisateurs et utilisatrices pour vraiment aussi découvrir des nouvelles façons de faire, tu vois, parce qu'on est post-TikTok où on récupère du contenu, où on mélange. Donc, je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ce mélange peut faire. Parce que de nouveau, je pense quoi, TikTok, c'est quand même très centré sur toi, tu vois. Tu peux faire des montages d'autres trucs, mais c'est souvent toi qui es au centre, tu vois.
C'est sûr,
j'aime
c'est
beaucoup
sûr.
Ce retournement. Donc, bravo à Poparazzi.
On verra ce que ça donne.
Qui est derrière ?
Non, c'est une petite start-up, donc je ne saurais pas dire. Je ne crois pas que ce soit des gens qui sont vraiment connus. Donc, simplement une petite start-up, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas.
Après le passage dans le rendez-vous tech, ça, tu ne peux plus le dire, quoi. Maintenant, c'est fini.
Un autre truc que je voulais ajouter, c'est que moi, bien sûr, je suis intrigué par ce type d'utilisation et ce type d'app. Malheureusement, je me suis rendu compte que, surtout ici dans la campagne, faire des photos d'autres personnes, ça va être très limité. À la limite, faire des photos des biches qui passent dans la forêt, peut-être de ma fille et de mon fils, mais ça va être à peu près tout. Donc malheureusement, c'est peut-être pas, je ne suis pas idéal pour l'application Poparazzi, mais je l'ai installée quand même et je suis notre Patrick sur Poparazzi, donc ça va. Là, le nom est sauf, donc tout va bien. D'autres choses dont je voudrais parler, c'est l'application Citizen App, enfin l'application Citizen, et on va passer dessus un petit peu plus rapidement peut-être parce que c'est pas forcément aussi prévalent chez nous qu'aux États-Unis, mais je voulais le mentionner. L'application Citizen, à la base, c'est une application qui est censée être une application de sécurité, c'est-à-dire qu'elle met en relation différentes personnes dans votre entourage, dans votre quartier, pour signaler les incidents. Et ça joue un petit peu sur les peurs des gens, et on s'est rendu compte encore plus que la problématique du est-ce que c'est un petit peu, ça joue sur les peurs justement. La vraie problématique, c'était les biais sociétaux qui faisaient que souvent les gens qui étaient signalés et les incidents qui étaient signalés, bah, c'était des personnes de couleur qui passaient dans le quartier la plupart du temps parce qu'ils y habitaient. Et quand quelqu'un voyait ça, il disait « Oulala, il y a quelqu'un de suspect qui passe dans mon quartier ». Et ce genre de biais était allié à ce type de système de signalement d'incidents, évidemment dommageable pour ces personnes. Eh bien, ça c'est jusqu'à maintenant, c'était pas génial, hein, mais la nouvelle chose qu'ils sont en train de tester, visiblement, c'est le fait d'avoir, en plus des signalements d'incidents, l'appel à des services de sécurité qui viendraient intervenir dans le cas des incidents. Et quand on parle de services de sécurité, on ne parle pas de police officielle, mais de services de sécurité comme bah, des firmes de sécurité, des sociétés de sécurité comme on peut les avoir dans, certains, enfin, dans les grands magasins, dans les boutiques, etc. Et dans, bah, je ne sais pas, les rues. Donc, ce que ça m'évoque, c'est un petit peu les milices privées qui viendraient investiguer les incidents. Et quand on sait aux États-Unis, c'est essentiellement aux États-Unis, quand on sait la manière dont les choses se passent aux États-Unis avec les relations entre les forces, entre guillemets, de l'ordre et les personnes qui ne sont, entre guillemets, pas censées être là où elles sont. On évoque dans la chatroom sur Twitch des dérapages. Je crois que c'est le terme complètement approprié. On imagine très, très vite à quel point ça peut déraper. Donc, je voulais le mentionner et le livrer à vos réflexions, mais ça m'inquiète un tout petit peu, on va dire.
Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que bah, toi, tu vis la même chose, j'imagine, en Finlande. Hein. C'est pas du tout le type d'application que je peux imaginer en Suisse. En tout cas, ça, c'est absolument certain. Et c'est vrai que bah, typiquement aux États-Unis, alors peut-être que je me fais des films, mais oui, ça pose des questions. Et quand tu vois les commentaires un petit peu sur leur page dans l'App Store, c'est visiblement, toi au début c'était un service local où tu voyais un petit peu voilà, ce qui était pertinent pour toi et maintenant ils poussent des alertes un peu de manière beaucoup plus agressive et tu te dis attention là, qu'est-ce qu'on est en train de mélanger, toi, ça doit rester quelque chose finalement où idéalement bah, tu n'as jamais d'alerte du tout quoi. Alors c'est pas bon pour le business mais tu as vraiment envie quand tu reçois un truc là que ce soit important donc ouais, ouais.
Et il y a même dans les... Alors, c'est l'article de Vice qui évoque ces choses-là, mais certaines discussions avec d'anciens employés sont préoccupantes sur, pour l'état d'esprit des gens qui sont à la tête de cette société. Ils ont des mots très durs que je ne répéterai pas ici, mais l'état d'esprit et les intentions des personnes qui sont à la tête de l'application, de la société qui développe l'application, sont... préoccupante, d'après les dires d'une personne qui était un ancien employé. Donc, on ne sait jamais le poids qu'on peut mettre dessus, mais quand on voit ce genre de choses, ce genre d'évolution pour l'application, on peut quand même se poser la question.
D'ailleurs, je vais te poser une question, toi qui parles plein de langues. Il y a un mot que je n'ai jamais... Comment tu dis « disgruntled employee » Tu sais, c'est toujours le mot qu'on utilise pour dire un employé
pas content. Je crois qu'on dirait un employé fâché, peut-être. C'est pas une traduction 100% exacte parce que dans disgruntled il y a l'idée que la personne est partie fâchée avec son employeur spécifiquement, donc peut-être un employé fâché avec son employeur, quelque chose comme ça.
Ok.
On pourrait parler très très longtemps de cette question de milice, mais on va évoquer d'autres choses comme par exemple la question du link rot et du content drift. Alors, il y a une étude très intéressante du, je crois que c'est le MIT, je ne suis plus tout à fait sûr, mais c'est une université américaine qui a fait une étude sur les effets du link rot. Le link rot, c'est la pourriture des liens et le content drift, qui est le dérapage, encore lui, du contenu. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène qui... veut qu'au fur et à mesure que le web vieillit, les sites web changent peut-être aussi, mais changent en tout cas, et les liens qu'on a quelque part sur le web ne sont plus valides. Si un site change suffisamment, eh bien un lien qu'on pouvait avoir ailleurs va mener vers une page d'erreur ou carrément quelque chose enfin une page d'erreur, on va dire, le lien n'est plus là. Et ça, c'est du link rot, c'est des liens qui disparaissent, ça veut dire le pourrissage des liens. Et le content drift, c'est également problématique, c'est quand le contenu d'un lien change. C'est-à-dire qu'on peut avoir un lien qui va aller vers, disons, une page d'une administration officielle, et dans un article, on va dire, la page du député machin ici, ou alors du conseiller municipal sur le site de la mairie, et quelques années après, eh bien, cette page-là aura changé et donc ça sera autre chose. Et ça, c'est le content drift qui également invalide les liens qui ont été créés à un certain moment. Et au fur et à mesure que les liens, le web vieillit et que les sites changent, ça a un réel impact de plus en plus important sur la validité des URL et des articles qui utilisent ces URL. Et l'étude en question regarde spécifiquement le site, c'est le New York Times, et ils ont trouvé qu'il y avait environ un sixième, donc 500 000 articles, qui avaient des liens sur le New York Times, mais qui n'est... Attendez, je me trompe les chiffres. C'est ça, c'est 25% de liens qui étaient complètement inaccessibles vers le New York Times. Et pourtant, le New York Times, c'est pas une institution qui disparaît, on va dire. Hein. C'est quelque chose de sérieux. Et donc, il y a un vrai, vrai problème pour ce phénomène qui s'amplifie. Et il n'y a pas énormément de choses à dire, hein, mais je pensais que c'était quelque chose d'intéressant à évoquer pour le garder à l'esprit dans l'évolution du web en général.
Ouais, je suis curieux de voir s'il y a des personnes peut-être qui sont admins chez Wikipédia, combien de liens sont changés par jour, par mois, par année, parce qu'ils sont plus valides. Parce que justement, moi, ça m'arrive très souvent d'être sur des... C'est les rares trucs que je fais sur Wikipédia, c'est corriger des liens qui n'existent plus et essayer de les remplacer quand c'est possible. Et tu te dis, mais il y en a des tonnes. Donc, c'est vrai qu'à l'échelle, c'est un souci. Et tu as raison de dire, ça fait partie des trucs, quand on lance, ben, on n'a pas de problème. Mais c'est la même chose, même dans certains réseaux sociaux avec les noms. Hein. On a des trucs où comment on gère finalement notre génération c'était tout libre pour nous. Et ben, pour le futur, ça ne sera pas le cas. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et je me demande comment on va gérer ça à la longue. Alors, quand c'est privé, on voit, mais sinon pas. Donc, c'est un bon lien et je serais curieux de voir s'il y a des personnes qui ont des idées dans ta communauté sur comment on peut gérer ça.
Eh bien, écoute, justement, dans la chatroom sur Twitch, on nous parle de archive.org. Et effectivement, on dit pourrissement hein, mais, et pas pourrissage. Mais je trouve pourrissage un petit peu plus parlant. Donc, bon, bref, archive.org fait un énorme travail d'archivage des sites web à différentes étapes de leur vie. Et ils l'évoquent dans l'article de Columbia Journalism Review, mais ils disent malheureusement c'est pas suffisant, même s'ils font beaucoup de choses, ils ne peuvent pas bien sûr capturer l'ensemble du web à tout moment. Donc c'est une étape, enfin un moyen d'essayer de sauvegarder le web dans son ensemble, mais c'est pas suffisant. Alors on pourrait imaginer, je sais pas, des protocoles du genre, on a une adresse URL avec en plus une donnée supplémentaire, une date, et on intégrerait la date à l'URL de manière à ce que quand elle est modifiée, eh bien on a quand même l'ancienne qui est toujours accessible. Ça pourrait être quelque chose de qui serait intégré dans les standards. Ça pose peut-être la question de savoir est-ce qu'on veut que tout le web soit accessible à jamais. Je ne sais pas si la réponse est forcément oui à chaque fois, mais peut-être à certains moments. Mais cette idée d'intégrer une donnée date à une URL, je pense que ça pourrait fonctionner. Bref.
En même temps, ça serait intéressant de voir à quel point la fraîcheur est importante. C'est vrai qu'il y a du contenu qu'on appelle evergreen, hein, qui reste tout le temps, mais en même temps, c'est vrai que le web est quelque chose qui bouge, le contenu bouge très vite, et donc ça serait, je pense que toi, de comprendre le pourcentage et où exactement il faut faire attention à ça, ça serait pas mal.
Ouais. C'est vraiment intéressant parce qu'on imagine le web, on le voit souvent comme quelque chose de statique, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on évolue, un des autres éléments qu'il donne dans cette étude, c'est par rapport aux dates. Et ils disent, par exemple, qu'il y a seulement 6% des liens de 2018 qui ont pourri, mais on a 43% des liens de 2008 qui ont pourri et 72% des liens de 98 qui ont pourri. Et on pourrait se dire, oui, bah oui, 98, c'est tellement vieux, mais imaginez en 2041... on va se dire, bah oui, 2021, c'est tellement vieux, c'est compliqué de se... Enfin bon, ça a une influence. Et le web, en fait, un petit peu comme une personne dont les cellules se renouvellent lentement mais sûrement, et au bout de quelques dizaines d'années, on n'est plus du tout la même personne parce qu'on n'a plus les mêmes cellules. Eh bien, le web, en fait, c'est un petit peu la même chose aussi. Il y a des pages web qui constituent le web, qui se renouvellent petit à petit. Et c'est une créature mouvante qui change et pas un truc statique, quoi. Bref. Allez, encore un ou deux sujets. On parlait de la question de l'intelligence artificielle et de l'évolution des modèles de langage, et on parle souvent dans cette émission du problème des biais cognitifs et sociétaux qui s'immiscent dans les modèles parce qu'ils sont présents dans les sets de données qui sont utilisés pour développer ces modèles. Eh bien, il y a un groupe de 500 chercheurs qui sont en train de développer des set de données prévu spécifiquement pour étudier ces problèmes-là. Ce n'est pas un set de données qui est prévu pour développer des fonctionnalités, mais vraiment spécifiquement pour étudier les biais qu'induisent les données dans les algorithmes d'intelligence artificielle. J'ai plus le nom du set, mais c'est quelque chose comme Big Computing, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un projet de recherche, et c'est d'autant plus important qu'on a des gens qui lèvent les drapeaux d'alarme depuis des années. On se souvient de l'incident avec cette chercheuse chez Google qui a été... c'est Timit Gebru, je crois, qui a été renvoyée, oui, de chez Google, alors que c'était son travail justement de signaler ce genre de problème il y a quelques mois. Eh bien, ces sets de données, je pense, sont importants pour que les chercheurs puissent trouver les problématiques et ensuite faire remonter ces problématiques de manière sérieuse à des sociétés qui, quand elles sont les seules à gérer ces sets de données, n'ont pas intérêt à appliquer le même type de recherche sérieuse pour déceler ces problèmes-là. Donc, c'est bien qu'il y ait des sets de données qui soient développés dans ces buts-là par des groupes qui ne sont pas simplement ces sociétés-là.
C'est excellent, c'est vraiment un beau projet. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple. Hein.
C'est Big Science, pardon. C'est Big Science, le nom du projet.
C'est très bien vu, et puis je pense que de toute manière, ben voilà, maintenant on parlait de phase, ben l'intelligence artificielle est dans une phase où elle est relativement peu régulée. Évidemment, tu ne peux pas faire de choses interdites avec, mais il faut s'attendre à ce qu'à un moment ou à un autre, on va commencer à poser des questions. Le côté boîte noire, black box, où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais bon, voilà, il y a un truc qui arrive, ça ne va pas durer longtemps. Donc les sociétés vont devoir aussi chercher à se prémunir la contre et pouvoir mieux comprendre un petit peu les problèmes qu'elle pourrait engendrer. Et je pense que c'est un projet qui a beaucoup d'avance. Bon, c'est encore au niveau de la recherche, mais ouais, je le suis avec plaisir. Excellent lien.
Alors, on va finir avec quelques sujets en rapid fire, et tu me dis s'il y en a qui t'intéressent au bout de la lecture. On a d'une part Netflix qui serait en train de s'intéresser à l'idée de développer des jeux vidéo, un petit peu sur le modèle de l'Apple Arcade. C'est pas si surprenant que ça, parce que d'une part, ils ont peut-être des propriétés intellectuelles qui pourraient être étendues dans d'autres domaines. On parlait de podcasts ou séries audio la semaine dernière. Bah, le jeu vidéo, ça pourrait être un domaine intéressant à explorer pour eux aussi. Bien sûr, le jeu vidéo, c'est compliqué à faire, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas réussir. Et puis surtout, c'est un facteur de croissance, un vecteur de croissance qui devient plus intéressant pour une société comme Netflix qui atteint peut-être les limites de sa croissance dans son cœur de métier. Snap, on parlait de Snapchat, eh bien, ils n'abandonnent pas l'idée des lunettes. Ils sont en train de... c'est plus qu'en train de développer. Ils ont développé des lunettes de réalité augmentée qui ne sont pas en vente. Hein. Elles vont être envoyées uniquement à certains influenceurs de Snapchat. C'est vraiment le moins cher de la réalité augmentée. D'une part, ça ressemble à des lunettes 3D des années 80. Ça me fait penser aux lunettes de... Je crois qu'il y avait... Je ne sais plus, c'était une console Sega qui avait un truc comme ça. Enfin, c'est pas très beau. C'est genre les années 2000 des années 80. Le champ de vision de la partie réalité augmentée est minuscule. Bref, enfin, ça a l'air de fonctionner quand même, mais c'est intéressant de voir que les Spectacles, nouvelle version donc de Snapchat, continuent dans le domaine de la réalité augmentée. Pourquoi pas ? Peut-être que ça leur offrira une expérience qui sera importante quand la réalité augmentée sera vraiment quelque chose de réel et de présent pour plus d'utilisateurs. On a également... Twitch, je ne sais plus si je l'évoquais dans le rendez-vous tech ou dans le rendez-vous jeu, mais il y avait beaucoup de gens qui commençaient à faire des streams sur Twitch dans des baignoires, dans des piscines, dans des jacuzzis, et beaucoup de gens disaient « Ah, mais c'est scandaleux, on peut tomber sur des gens et des femmes parfois en maillot de bain, mon Dieu, qui sont dans des piscines quand on regarde Twitch. » Et bien, Twitch a résolu le problème en disant « On va créer une catégorie piscine, plage et jacuzzi. » Et donc, maintenant, il y a une catégorie spécifique là-dessus. Bon, on pourrait en parler un peu plus longuement, mais au moins, maintenant, la question est réglée. Ils sont dans leur propre catégorie. Ils et elles sont dans leur propre catégorie. Et enfin, on a atteint le dernier jour du procès entre Apple et Epic. Pas vraiment de grosses révélations pour ce dernier jour, mais simplement pour signaler que maintenant, les choses sont terminées, mais on n'aura pas le jugement avant des semaines, possiblement plus longtemps, puisque la juge va prendre un moment pour étudier tout ça et délibérer. Mais ce procès, qui est évidemment extrêmement important pour toute l'industrie de la tech, est maintenant arrivé à son terme. Ceci dit, je ne doute pas que, même une fois la délibération faite, on aura des appels et des contre-appels et que ça risque de durer très très longtemps. Donc voilà... pour ces petites infos supplémentaires. Il y a un truc qui t'a plu ?
Il y a une remarque peut-être sur Netflix. Je ne sais pas si tu te souviens qu'en janvier 2019, donc il y a 2 ans, Reed Hastings avait dit qu'il considérait que leur principale compétition, c'était pas les autres services de streaming. C'était Fortnite. Et c'est vachement intéressant de voir que 2 ans et quelques après, hein, donc ça fait 2 ans et quelques qu'ils y travaillent, clairement, au minimum, tu vois. Donc, c'est intéressant de voir le rythme que ça prend, ce genre de choses. J'aime bien faire ce genre de lien pour comprendre aussi. On dit toujours, ah, ces boîtes, elles sont tellement rapides et tellement agiles. Mais on voit qu'il y a quand même des choses qui prennent du temps puis qui doivent préparer sur des années. Donc, très curieux de voir où est-ce qu'ils vont arriver avec ça. Et à mon avis, ça fait alors complètement du sens que ce type de contenu fusionne.
C'est effectivement... Alors, je ne sais pas si ça fait 2 ans et demi qu'ils travaillent dessus. Là, on a des rumeurs, enfin des sources anonymes qui disent qu'ils sont en train de chercher une personne qui mettrait en place cette extension dans le domaine du jeu vidéo. Donc, peut-être qu'ils ont étudié la chose, mais ce n'est pas en développement actif encore. Mais oui, c'est quelque chose qui serait hyper cohérent. Et ça pose plein de questions intéressantes. Par exemple, pour le jeu vidéo, un élément hyper important, c'est la manière dont on va contrôler l'interaction avec le jeu. Et ce n'est pas avec une télécommande de télé ou même d'Apple TV et même la nouvelle télécommande qu'on va pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, les manettes peuvent se connecter aux Apple TV, à la plupart des appareils connectés à vos TV et bien sûr à vos ordinateurs ou vos tablettes et téléphones. Donc peut-être que ça serait possible, par ce biais, avec les manettes, d'avoir quelque chose qui se contrôle correctement et donc qui fait que ça peut fonctionner. Peut-être aussi qu'on pourrait imaginer pour les téléphones ou les tablettes des contrôles tactiles. Mais c'est pas une... c'est marrant parce qu'on rentre dans des questions qui peuvent apparaître comme des détails pour des personnes qui connaissent pas bien ce marché, mais qui sont en réalité absolument essentielles à la réussite d'une initiative comme celle-là. Donc, même si ça fait 2 ans qu'ils y travaillent, je peux imaginer que leur prudence reflète une compréhension du fait que c'est pas quelque chose de simple. C'est pas parce qu'on a du succès dans le domaine de la vidéo en ligne et du streaming. D'ailleurs, peut-être qu'ils pourraient imaginer du streaming de jeux vidéo plutôt que du téléchargement. Et d'ailleurs, du téléchargement, comment est-ce que ça fonctionnerait puisque qu'on devrait télécharger des apps dans l'app, ce qui est interdit par Apple dans ses conditions d'utilisation. Mais en plus de ça, Apple interdit également le streaming, ce qui est à la base de problématiques avec Google et Microsoft pour leur propre service de streaming de jeux vidéo. Donc, il y a plein de choses compliquées que soulève cette simple rumeur de « est-ce que Netflix va se mettre à faire du jeu vidéo ?» C'est en tout cas peut-être une app dédiée ou on ne sait pas. C'est intéressant.
Oui, à fond. Je pense que c'est vraiment une nouvelle très intéressante. Ouais.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce long épisode du Rendez-vous Tech. C'est hyper intéressant de passer un petit peu de temps avec toi, Benoît. Merci de t'être joint à moi. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver ce que tu fais sur Internet ?
Oui, alors avec plaisir, effectivement, comme tu l'as dit au début de l'émission, on me retrouve chaque deux semaines sur Niptech, donc niptech.com, et puis sinon, si vous voulez m'envoyer un mot ou quoi que ce soit, c'est @bkurdi sur Twitter. Ça devient de plus en plus old school et vieux hein, de donner son Twitter handle, mais ma foi, voilà, j'ai dit que ça fait 10 ans que j'ai quitté Google, donc au bout d'un moment, ma foi, on a l'âge qu'on a. Hein. Donc sur Twitter, si vous voulez m'envoyer un petit mot, avec grand plaisir. Et puis, comme d'habitude, un grand merci, c'est toujours un bon moment en ta compagnie, et à une prochaine fois.
Merci beaucoup Benoît. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver tout ce que je fais sur notepatrick.com. Et n'oubliez pas, comme je le disais, le sponsor ExpressVPN, expressvpn.com/rdvtech. Si vous souhaitez vous prendre un abonnement à un VPN efficace que je recommande, le lien est dans les notes de l'émission. Et écoutez, ça va être tout. Je crois que malheureusement, les choses étant compliquées à la maison aujourd'hui pour les Patriotes, on ne va pas faire d'after show aujourd'hui, je suis vraiment désolé, mais ça a même été compliqué de mettre en place l'épisode tout court. Donc, on va sauter l'after show aujourd'hui et on sera de retour, bien sûr, la semaine prochaine. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve la semaine prochaine. Grosse bise à tous.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.